Chapitre 2. Première vision. Il est faux que l'on doive quitter la terre pour apprécier la totale splendeur des cieux. Même dans l'espace, le firmament étoilé n'est pas aussi magnifique que lorsqu'on le contemple d'une haute montagne, par une nuit parfaitement claire, loin de toute source de lumière artificielle. Si les étoiles paraissent plus brillantes au-delà de l'atmosphère, l'œil ne peut réellement noter la différence, et le spectacle bouleversant de la moitié de la sphère céleste, d'un seul coup d'œil, dépasse ce que peut offrir n'importe quel observatoire. Mais Heywood Floyd était plus que satisfait de la vision de l'univers qui lui était réservée, surtout dans les moments où sa cabine était du côté obscur de l'hôpital spatial qui tournait lentement sur lui-même. Il n'y avait alors dans le champ rectangulaire de sa vision que des étoiles, des planètes, des nébuleuses et, à l'occasion, occultant tout le reste, l'éclat insoutenable de Lucifer, le nouveau rival du Soleil. 10 minutes environ avant le début de sa nuit artificielle, il éteignait toutes les lumières de la cabine, même la veilleuse rouge de secours, pour être dans une obscurité totale. Assez tard dans la vie, pour un ingénieur spatial, il avait découvert les plaisirs de l'astronomie et il était maintenant capable d'identifier presque toutes les constellations, même s'il n'en apercevait qu'une petite partie. Presque toutes les nuits de ce mois de mai, la comète passait à l'intérieur de l'orbite de Mars et il avait situé son emplacement sur les cartes célestes. Bien que ce fût un objet facile à découvrir avec de bonnes jumelles, Floyd avait obstinément refusé leur secours. Il avait envie de mettre à l'épreuve l'acuité de sa vue et de savoir comment ses yeux vieillissants relèveraient le défi. Deux astronomes de l'observatoire de Mauna Kea prétendaient avoir déjà observé la comète à l'œil nu, mais personne ne les croyait, et des affirmations semblables venant de quelques résidents de Pasteur s'étaient heurtées à un même scepticisme. Mais, ce soir, on prévoyait une magnitude de 6 au moins. Il aurait peut-être de la chance. Il traça une ligne de gamma à epsilon, posa sur elle un triangle équilatéral imaginaire, et en regarda le sommet comme si du seul fait de sa volonté, sa vue pouvait traverser le système solaire. Et elle était là, telle qu'il l'avait vue pour la première fois, 76 ans plus tôt, discrète mais parfaitement reconnaissable. S'il n'avait pas su exactement où regarder, il n'aurait rien remarqué ou aurait simplement cru à une lointaine nébuleuse. À l'œil nu, ce n'était qu'une minuscule tache de brume parfaitement ronde. En dépit de tous ses efforts, il fut incapable de détecter la moindre trace de queue. Mais la petite escadrille de sondes qui escortait la comète depuis des mois avait déjà enregistré les premiers jaillissements de poussière et de gaz qui créeraient bientôt un panache étincelant traversant le champ des étoiles, s'éloignant en droite ligne de son créateur, le Soleil. Heywood Floyd avait observé, comme tout le monde, la transformation du noyau froid, sombre, non, presque noir, à son entrée à l'intérieur du système solaire. Après 70 ans de congélation, le mélange complexe d'eau, d'ammoniac liquide et autres glaçons se mettait à se dégeler et à bouillonner. Une montagne volante à peu près de la forme et de la taille de l'île de Manhattan se changeait en un crachat cosmique toutes les 53 heures. Tandis que la chaleur du soleil pénétrait la croûte isolante, la vaporisation des gaz faisait ressembler la comète de Halley à une chaudière à vapeur affligée de fuite. Des jets de vapeur d'eau, mêlés à de la poussière et à un brouet de sorcières de produits chimiques organiques, fusaient par une demi-douzaine de petits cratères. Le plus grand, à peu près de la superficie d'un terrain de football, entrait régulièrement en éruption environ 2 heures après l'aurore locale. Cela ressemblait tout à fait à un geyser terrestre. On l'avait baptisé, naturellement, comme celui du parc de Yellowstone, Old Faithful. Il avait déjà des fantasmes. Il s'imaginait au bord de ce cratère, attendant que le soleil se lève sur le sombre paysage convulsé qu'il connaissait déjà si bien par les photos de l'espace. Bien sûr, le contrat ne parlait pas d'une sortie des passagers, mais seulement de l'équipage et du personnel scientifique, quand le vaisseau se poserait sur Halley. D'un autre côté, il n'y avait rien, même dans les petits caractères, pour l'interdire formellement. « Ils auront du mal à me retenir », pensa Heywood Floyd. « Je suis sûr de pouvoir encore me débrouiller avec une combinaison spatiale. Et si je me trompe ?» Il se souvint d'avoir lu qu'un visiteur du Taj Mahal avait dit une fois « Je mourrai demain pour un mausolée comme celui-là ». Il se serait volontiers contenté de la comète de Halley.